Où en étions-nous? Ah oui, à Tivoli. Une puanteur pénétrante d'eau sulfureuse. Et puis, tout à l'entour, des oliviers, des bois d'oliviers. Et en moi-même, l'étrange sensation primitive qui se dissipe peu à peu, comme dans le vent du trajet. Je descends. Les gens sont dans les rues. Les rameaux luisent au soleil, les cloches carillonnent, je sais que je la rencontrerai. Ah, monsieur Episcopo, vous ici? C'est la voix de Ginevra. C'est Ginevra devant moi, les mains tendues, et j'en suis bouleversé. Elle me regarde et elle sourit en attendant que je réussisse à dire quelque chose. Est-ce la même femme qui tournait autour de la table, dans la salle pleine de fumée, sous la lumière du gaz? Est-il possible que ce soit elle? Je finis par balbutier une phrase. Elle insiste. Mais comment êtes-vous ici? Quelle surprise! Je viens pour vous voir. Ah, vous vous souvenez donc que nous sommes promis? Elle ajoute en riant. Voici ma sœur. Accompagnez-nous à l'église. Vous passerez la journée avec nous, n'est-ce pas? Vous jouerez votre rôle de fiancée. Dites oui. Elle est gaie, causeuse, pleine de grâces imprévues, pleine de séductions que je ne lui connaissais pas. Elle porte un vêtement simple, sans prétention, mais non sans grâce, presque avec élégance. Elle me demande des nouvelles des camarades. Et ce Fanzer? Un journal par hasard lui a tout appris. Vous étiez grands amis, n'est-ce pas, non? Je ne réponds rien. Il y a un court intervalle de silence et elle paraît songeuse. Nous entrons dans l'église toute fleurie de rameaux bénis. Elle s'agenouille à côté de sa sœur et ouvre un livre de prière. Moi, debout derrière elle, je lui regarde le cou. Et la découverte d'un petit signe brun me donne un indicible frisson. Au même instant, elle se retourne un peu et du coin de l'œil m'envoie une étincelle. La mémoire du passé s'abolit, l'inquiétude de l'avenir s'endort. Il n'y a plus que l'heure présente. Sur terre, il n'y a plus pour moi que cette femme. Sans elle, il ne me resterait qu'à mourir. À la sortie, sans rien dire, elle m'offre un rameau. Et moi, sans rien dire, je la regarde. Et il me semble que ce regard lui a tout fait comprendre. Nous nous acheminons vers chez la sœur. On m'invite à monter. Ginevra s'approche du balcon en me disant « Venez un peu, venez prendre un air de soleil. » Nous voici sur le balcon, l'un près de l'autre. Le soleil nous inonde. Le bourdonnement des cloches passe sur nos têtes. Elle dit tout bas, comme en se parlant à elle-même. Oh, qui l'aurait jamais pensé? Mon cœur se gonfle d'une tendresse sans limite. Je ne me soutiens plus. Je lui demande d'une voix méconnaissable. Mais nous sommes donc promis. Pendant une seconde, elle se tait. Puis, tout bas, avec une imperceptible rougeur, en baissant les yeux, elle répond « Vous voulez? Eh bien, oui, soit. » On nous rappelle de l'intérieur. C'est le beau-frère, ce sont d'autres parents, ce sont les fillettes. Je prends au sérieux mon rôle de fiancé. À table, je suis placé près de Ginevra. Un moment, nous nous serrons la main sous la nappe. Et je crois que je vais défaillir, tant cette volupté me semble poignante. De temps à autre, le beau-frère, la sœur, les parents me regardent avec une curiosité mêlée de stupeur. Mais comment se peut-il que personne n'en ait rien su? Mais comment ne nous en avais-tu point parlé, Ginevra? Nous serions embarrassés, confus. Stupéfaits tous les premiers de l'événement qui s'accomplit avec la facilité et l'absurdité d'un rêve. Oui, absurde, incroyable, ridicule, ridicule surtout. Et pourtant, cela s'est accompli en ce monde entre moi, Giovanni Episcopo, et la nommée Ginevra Carale, comme je vous le dis, exactement comme je vous le dis, comme je vous le conte. Ah, monsieur, vous pouvez rire si vous voulez, je ne m'en offenserai pas. La farce tragique, où donc ai-je lu ce mot-là? C'est bien vrai, il n'y a rien de plus ridicule, rien de plus ignoble et rien de plus atroce. J'allais faire la visite à la mère dans une vieille maison de la rue Montanara. Je grimpais un escalier étroit, humide, glissant comme celui d'une citerne, et où s'infiltrait par une lucarne une lumière douteuse, verdâtre, presque sépulcrale. Oh, quelque chose qu'on n'oublie pas, j'ai tout dans la mémoire. En montant, je m'arrêtais presque à chaque marche, parce qu'il me semblait toujours que je perdais l'équilibre, comme si j'eusse posé le pied sur une glace mouvante. Plus je montais, plus l'escalier, dans cette lumière, me faisait l'effet d'un être fantastique, plein de mystère, plein d'un silence profond, où venaient mourir des voix très lointaines, incompréhensibles. Tout à coup, sur le palier supérieur, j'entendis une porte s'ouvrir avec violence et une explosion d'injures hurlées par une voix de femme retentit dans l'escalier. Puis la porte se referma par une poussée brusque qui fit trembler la maison du haut en bas. Je tremblais aussi de frayeur et je restais sur place, ne sachant que faire. Un homme descendait lentement, lentement. On aurait dit qu'il glissait le long du mur comme une chausse flasque. Il grognait et geignait sous un chapeau blanchâtre aux larges bords. Mais en se heurtant à moi, il releva la tête. J'entrevis une paire de lunettes sombres, de celles qu'entoure un treillis, des lunettes énormes qui faisaient saillie sur une face rougeâtre comme un morceau de viande crue. L'homme, me prenant pour quelqu'un de sa connaissance, s'écria: Pietro! Et il me saisit le bras en m'envoyant au visage son haleine vineuse. Mais il s'aperçut de sa méprise et recommença de descendre. Alors je me remis à monter machinalement. Et sans savoir pourquoi, j'étais sûr d'avoir rencontré quelqu'un de la famille. Je me trouvais devant une porte où je lus Emilia Canale, couturière au Mont-de-Piété, avec autorisation de la Question Royale. Pour mettre fin au malaise de l'incertitude, je fis un effort et tirai le cordon de la sonnette. Mais sans le vouloir, je tirai si fort que la sonnette se mit à sonner avec furie. Une voix irritée répondit de l'intérieur, la même voix qui avait proféré les injures. La porte s'ouvrit, et moi, en proie à une sorte de panique, sans rien voir, sans rien attendre, hors d'haleine, je dis en mangeant les mots: Je suis Episcopo, Giovanni Episcopo, l'employé. Je suis venu, vous savez, pour votre fille, vous savez. Pardon, pardon, j'ai tiré trop fort. J'étais devant la mère de Ginevra. Une femme encore belle et fleurie, devant la courtière parée d'un collier d'or, de deux grosses boucles d'or, d'anneaux d'or à tous les doigts. Et je faisais timidement une demande en mariage. Vous vous souvenez, la fameuse demande proposée par Filippo d'Oberti. Ah, monsieur, vous pouvez rire si vous voulez. Je ne m'en offenserai pas. Dois-je vous conter tout minutieusement, jour par jour, heure par heure? Voulez-vous toutes les petites scènes, tous les menus faits, toute ma vie de ce temps, là, si bizarre, si extravagante, si comique et si misérable, tout jusqu'au grand événement? Voulez-vous rire, voulez-vous pleurer? Rien de plus facile que de vous dire tout. Je lis dans mon passé comme dans un livre ouvert. C'est une grande clarté qui vient à ceux dont la fin est proche. Mais je suis là, je suis faible. Et vous aussi, vous devez être un peu fatigué. Il vaut mieux que j'abrège. J'abrège. J'obtins sans peine le consentement. La courtière paraissait déjà renseignée sur mon emploi, sur mes appointements, sur ma situation. Elle avait la voix sonore, le geste décidé, un regard méchant et presque rapace, qui par instant se faisait enjôleur et presque lascif, un peu semblable à celui de Ginevra. Quand elle me parlait debout, elle m'approchait de trop près, elle me touchait sans cesse. Tantôt elle me donnait une petite bourrade, tantôt elle me tirait par un bouton de mon habit, tantôt elle secouait de mon épaule un grain de poussière, tantôt elle m'ôtait du vêtement un fil, un cheveu. Et c'était pour moi une inquiétude de tous les nerfs, une torture, l'incessante mainmise de cette femme que j'avais vue plus d'une fois lever le poing au visage de son mari. Le mari, c'était justement l'homme de l'escalier. L'homme aux lunettes vertes, un pauvre idiot. Il avait été typographe. Mais maintenant, une maladie des yeux l'empêchait de travailler. Et il vivait à la charge de sa femme, de son fils et de sa belle-fille, maltraité par tout le monde, martyrisé, regardé comme un intrus. Il avait le vice de la boisson, l'habitude de l'ivresse, la soif, la terrible soif. Personne chez lui ne lui donnait un sou pour boire. Mais certainement, afin de gagner un peu de monnaie, il devait faire en cachette dans on ne sait quelle rue, dans on ne sait quelle boutique, pour on ne sait quel genre. Un ignoble petit métier, une besogne basse et facile, au jour le jour. Quand l'occasion s'en présentait, il agrippait à la maison ce qui lui tombait sous la main, et courait le vendre pour boire, pour se procurer le moyen de satisfaire son indomptable passion. La peur des injures et des coups était impuissante à le retenir. Une fois au moins par semaine, sa femme le chassait sans pitié. Pendant 2 ou 3 jours, il n'avait pas le courage de revenir, de frapper à la porte. Où allait-il? Où dormait-il? Comment vivait-il? Dès le premier jour, dès le jour où je fis sa connaissance, je lui plus. Tandis que j'étais assis et que j'endurais le bavardage de ma future belle-mère, il se tournait vers moi en souriant d'un sourire continuel qui faisait trembler sa lèvre inférieure un peu pendante, mais qui se transparaissait pas sous les espèces de cages où ses pauvres yeux malades étaient emprisonnés. Lorsque je me levai pour sortir, il me dit à voix basse, avec une crainte manifeste, « Je sors aussi. » Nous sortîmes ensemble. Il était mal d'aplomb sur ses jambes. En descendant l'escalier, je vis qu'il hésitait, qu'il chancelait. Je lui dis, « Voulez-vous vous appuyer? » Il accepta, s'appuya. Quand nous fûmes dans la rue, il ne retira point son bras de dessous le mien, malgré le mouvement que je fis pour me dégager. D'abord il se tut, mais de temps à autre il se tournait vers moi et rapprochait si près son visage qu'il me touchait du rebord de son chapeau. Il continuait de sourire et, pour rompre le silence, il accompagnait ce sourire d'un bruit guttural singulier. Je me souviens. C'était à la Brune par une soirée très douce. Les gens étaient dans la rue. Deux musiciens, flûte et guitare, jouaient un air de Norma à la terrasse d'un café. Je me souviens, une voiture passa qui emportait un blessé escorté de 2 sergents de ville. Il finit par dire en me serrant le bras, « Je suis content, tu sais, vrai, je suis content. Quel beau fils tu dois être. J'ai déjà de la sympathie pour toi, tu sais. » Il dit cela presque convulsivement, absorbé par une idée unique, par un désir unique, mais qu'il avait honte d'exprimer. Il se mit à rire comme un hébété. Le silence recommença, puis il répéta encore: Je suis content. Il se remit à rire, mais d'un rire spasmodique. Je m'aperçus qu'une crise nerveuse l'agitait et le faisait souffrir. Lorsque nous arrivâmes devant un vitrage garni de rideaux rouges que faisait flamboyer une lumière intérieure, Il dit à l'improviste d'une voix rapide « Buvons-nous un verre ensemble ?» Il s'arrêta, me retint devant la porte, dans le reflet rougeâtre qui tachait le dallage. Je sentis qu'il tremblait, et la lumière me permit d'apercevoir à travers les lunettes ses pauvres yeux enflammés. Je répondis « Entrons !» Nous entrâmes dans le cabaret. Le peu de buveurs qui s'y trouvaient, réunis en groupe, jouaient aux cartes. Nous prîmes place dans un coin. Canalet commanda « Un litre rouge !» On aurait dit qu'il avait été pris d'un enrouement subit. Il versa le vin dans les verres, d'une main qui tremblait comme celle d'un paralytique. Il but d'un trait, et pendant qu'il se passait la langue sur les lèvres, il se versa un second verre. Puis, posant la bouteille sur la table, il se mit à rire et déclara naïvement « Voilà 3 jours que je n'avais pas bu !»« 3 jours ?»« Oui, 3 jours. J'ai pas le sou, moi. À la maison, personne ne me donne un sou, tu comprends? Tu comprends? Et je ne puis plus travailler avec ces yeux-là. Regarde, mon fils !» Il souleva ses lunettes. Et ce fut comme s'il avait soulevé un masque, tant l'expression de son visage changea. Les paupières étaient ulcérées, bouffies, sans cils, chargées de pus horribles. Et sur ce front rouge, dans ce bouffissement, s'ouvraient avec peine 2 yeux larmoyants, infiniment tristes. De cette tristesse profonde et incompréhensible qu'ont les regards des bêtes qui souffrent. Devant cette révélation, une répugnance mêlée de pitié m'émut. Je demandai « Cela vous fait mal, beaucoup de mal ?»« Oh, mon fils, figure-toi, des aiguilles, des écharpes de bois, ces morceaux de verre, des épines venimeuses. » Oh, si on piquait tout cela dans les yeux, mon fils, ce serait rien en comparaison. Peut-être exagéra-t-il sa souffrance parce qu'il se voyait l'objet de ma pitié, de la pitié d'une créature humaine, après si longtemps. Depuis si longtemps, il ne lui avait pas été donné d'entendre une voix compatissante. Il exagéra peut-être pour accroître ma commisération, pour entendre une fois au moins les consolations d'un homme. « Cela vous fait tant de mal ?»« Oui, oh, tant de mal !» Il passa sur ses paupières, doucement, doucement, une espèce de chiffon qui n'avait plus ni forme ni couleur. Puis il rabaissa ses lunettes et vida le second verre d'un trait. Je bus aussi, il toucha la bouteille et dit « Bon, fils, y a que cela au monde !» Je l'observai. Véritablement, rien en lui ne rappelait Ginevra. Pas une ligne, pas une expression, pas un geste, rien. Je pensais, c'est pas lui le père. Il but encore, il commanda un autre litre. Puis il recommença à dire sur un ton de fausset, « Je suis content que tu m'épouses Ginevra. Tu peux être content toi aussi. » Il en est de famille, les canards, et si nous n'avions pas été honnêtes, à l'heure qu'il est. Et en levant son verre, il eut un sourire ambigu qui m'inquiéta. Il reprit. Hey, Ginevra aurait pu faire notre fortune si nous avions voulu, tu comprends? Ce sont des choses qu'on peut te dire à toi. Non pas une, ni deux, mais 10, mais 20 propositions. « Mais quelle proposition, mon fils !» Je me sentais devenir vert. « Le prince Altkin, par exemple, depuis l'éternité, il me persécute. De cœur lasse, il m'a fait venir dans son palais un soir, l'autre mois, avant le départ de Ginevra pour Tivoli. Tu comprends? Il donnait 3 000 francs comptant. Il lui ouvrait une boutique, etc., etc. » Mais non, non, Emilia a toujours répété, c'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas ce qu'il nous faut. Nous avons marié l'aîné, Nous marierons aussi la cadette. Un employé avec un bel avenir, avec des appointements fixes. Ben, nous le trouverons. tu vois, c'est toi qui es venu. Tu t'appelles Episcopo, n'est-ce pas? Quel nom, Madame Episcopo, alors, Madame Episcopo. Il était devenu loquace, il se mit à rire. Mais où l'as-tu donc vu? Comment as-tu fait sa connaissance? Là-bas, n'est-ce pas, à la pension. Raconte, raconte, je t'écoute. En ce moment entra un homme d'aspect équivoque, répulsif, moitié valet de chambre et moitié coiffeur, pâle, avec la face semée de pustules rougeâtres. Il salua Canale. « Bonjour, Battista !» Battista l'appela, lui offrit un verre de vin. « Buvez à notre santé, Teodoro. Je vous présente mon futur gendre, le fiancé de Ginevra. » L'inconnu, surpris, me regarda avec des yeux blanchâtres qui me firent frissonner comme si j'avais senti sur ma peau un contact froid et visqueux. Et il murmura « Oh, monsieur, et donc ?»« Oui, oui, » répliqua le bavard en lui coupant la parole, « c'est monsieur Episcopo. » « Ah, monsieur Episcopo, enchanté, mes félicitations !» Je n'ouvris pas la bouche. Mais Battista riait, le menton sur la poitrine, en se donnant d'un air malin. L'autre ne tarda pas à prendre congé. « Adieu, Battista, au plaisir de vous revoir, monsieur Episcopo !» Et il me tendit la main, et je lui donnai ma main. Aussitôt qu'il se fut éloigné, Battista me dit tout bas, « Tu sais qui c'est? Teodoro !»« Eh oui, l'homme de confiance du marquis Agouti, ce vieux qui est propriétaire du palais d'à côté. » Depuis un an, il tourne autour de moi pour Ginevra, tu comprends? Le vieux la veut. Il pleure, il crie, il trépigne comme un bambin, parce qu'il la veut. Le marquis Agati, celui qui se faisait lier au fer de son lit et fouetter jusqu'au sang par ses femmes. Même nous entendions les hurlements de chez nous. Putain, la question s'en est mêlée. Ah, ah, le pauvre Teodoro. Quelle mine! As-tu vu la mine qu'il a faite? S'y attendait guère à cette affaire-là, le pauvre Teodoro. S'y attendait guère. Et il continuait à rire stupidement, tandis que je mourais d'angoisse. Tout à coup, il s'arrêta et poussa une imprécation. De dessous le treillis de ses lunettes, il lui coulait sur les joues deux ruisseaux de larmes impures. « Oh, ses yeux, quand je bois, quel supplice !» Et de nouveau, il souleva les terribles lunettes vertes. Et de nouveau, je vis en plein cette face difforme qui avait l'apparence d'un écorché, rouge comme le derrière de certains singes, vous savez, dans les ménageries. Et je revis ses deux yeux douloureux au milieu de ses deux plaies. Et je revis le geste dont il pressait ce chiffon sur ses paupières. « Il faut que je parte, dis-je, je n'ai que le temps. »« Bien, partons, attends un peu. » Et il se mit à fouiller dans ses poches, comme pour en tirer de la monnaie, grotesquement. Je payais. Nous nous levâmes et nous sortîmes. Il mit encore son bras sous le mien. On aurait dit qu'il ne voulait plus me lâcher de toute la soirée. À chaque instant, il riait comme un idiot. Et je sentis renaître en lui la crise de tout à l'heure, l'agitation, l'affolement intérieur d'un homme qui veut dire quelque chose et qui n'ose pas et qui a honte. « La belle soirée » dit-il. Et il eut le même rire convulsif que la fois précédente. Tout d'un coup, avec un effort pareil à celui du bègue qui demeure court, la tête basse en se cachant sous le rebord de son chapeau, il ajouta « Prête-moi 5 francs, je te les rendrai. » Nous nous arrêtâmes. Je mis les 5 francs dans sa main tremblante, et aussitôt il se retourna, s'enfuit et se perdit dans l'ombre. Ah, monsieur, quelle pitié! L'homme que dévore le vice, l'homme qui se débat dans les griffes du vice, et qui se sent dévoré, et qui se voit perdu, et qui ne veut pas, qui ne peut pas se sauver. Quelle pitié, monsieur, quelle pitié! Connaissez-vous quelque chose de plus inconcevable, de plus fascinant, de plus obscur? Dites, dites, entre toutes les choses humaines, y a-t-il une plus triste que l'effarement qui saisit un homme devant l'objet de sa passion désespérée? Y en a-t-il une plus triste que ses mains qui tremblent, ses genoux qui vacillent, ses lèvres qui se crispent, tout cet être que torture l'implacable besoin d'une sensation unique? Dites, dites, y a-t-il rien de plus triste sur la terre? Y a-t-il rien? Eh bien, monsieur, depuis ce soir-là, je me suis senti lié à ce misérable. Je suis devenu son ami. Pourquoi? Par quelle affinité mystérieuse? Par quelle prévision instinctive? Peut-être par l'attraction de son vice qui commençait à me dominer irrésistiblement moi aussi. Ou encore par l'attraction de son infortune, inévitable et sans espérance comme la mienne. Depuis ce jour-là, je le revis presque tous les soirs. Il venait me chercher n'importe où. Il m'attendait à la porte de mon bureau. Il m'attendait chez moi, la nuit, dans l'escalier. Il ne me demandait rien. Il n'avait pas même la ressource de faire parler ses yeux, puisqu'ils étaient couverts. Mais il me suffisait de le regarder pour comprendre. Il souriait de son sourire habituel, de son sourire hébété, convulsif. Et il attendait, sans demander rien. Je n'avais pas la force de lui résister, de le congédier, de l'humilier, de lui montrer un visage sévère, de lui adresser une parole dure. M'étais-je donc soumis à un nouveau tyran? Giulio Wanzer avait donc un successeur. Souvent, sa présence m'était pénible, horriblement pénible. Et pourtant, je ne faisais rien pour m'en délivrer. Il avait parfois des effusions de tendresse ridicules et affligeantes qui me serraient le cœur. Un jour, il me dit, en faisant la grimace que fait un bébé qui va se mettre à pleurer, « Pourquoi ne m'appelles-tu point papa ?» Je savais qu'il n'était pas le père de Ginevra. Je savais que les enfants de sa femme n'étaient pas ses enfants. Lui-même, sans doute, ne l'ignorait pas non plus. Mais je l'appelais papa lorsque personne ne nous entendait, lorsque nous étions seuls, lorsqu'il avait besoin de consolation. Pour m'émouvoir, il lui arrivait souvent de me montrer une meurtrissure, la marque d'un coup, avec le geste des mendiants quand ils étalent leur difformité ou leur plaie pour arracher une aumône. Le hasard me fit découvrir que, certains soirs, il se postait dans la rue aux endroits les plus obscurs et demandait l'aumône à voix basse, adroitement, sans se faire remarquer, en marchant à côté des passants un bout de chemin. À l'angle du forum de Trajan, je me vis un soir accosté par un homme qui marmottait. « Je suis un ouvrier sans travail. Je suis presque aveugle. J'ai 5 enfants qui n'ont pas mangé depuis 48 heures. Faites-moi une petite charité pour que j'achète un morceau de pain à ces pauvres créatures du bon Dieu. » Immédiatement, je reconnus sa voix. Mais lui, qui en effet était presque aveugle, ne me reconnut pas dans l'ombre. Et je m'éloignais en hâte, je m'enfuis par crainte d'être reconnu. Il ne reculait devant aucune bassesse, pourvu qu'il eût de quoi satisfaire sa soif atroce. Une fois, il se trouvait dans ma chambre et ne tenait pas en place. Je venais de rentrer de mon bureau, j'étais en train de me laver. J'avais posé ma jaquette et mon gilet, j'avais laissé dans le gousset du gilet ma montre. Une petite montre d'argent, un souvenir de mon père mort. Je me lavais donc derrière un paravent. J'entendais Battista remuer dans la chambre d'une manière insolite, comme s'il eût été inquiet. Je demandai: Que faites-vous? Il répondit avec trop de hâte, d'une voix un peu altérée: Oh, rien, pourquoi? Et vite il accourut derrière le paravent avec un empressement excessif. Je me rhabillai et nous sortîmes, et au bas de l'escalier, je cherchais ma montre dans mon gousset pour regarder l'heure. Je ne la trouvais pas. Diable, j'ai laissé ma montre en haut dans la chambre. Il faut que je remonte. Attendez-moi ici, je reviens dans un instant. Je remontai, j'allumai une bougie. Je cherchais la montre partout, sans réussir à la trouver. Après quelques minutes de recherche inutile, j'entendis la voix de Battista qui demandait: Eh bien, l'as-tu trouvé? Il m'avait suivi en haut et s'était arrêté à la porte. Il chancelait un peu. Non, c'est étrange. Il me semblait pourtant que je l'avais laissé dans mon gousset. Vous ne l'avez pas vu? Non. Vraiment? Non. Déjà un soupçon m'avait frappé. Battista se tenait sur le seuil, debout, les mains dans ses poches. Je recommençais à chercher avec impatience, presque avec colère. Mais c'est impossible que je l'aie perdue. Tout à l'heure, avant de me déshabiller, je l'avais. Je suis certain que je l'avais, elle est sûrement ici. Oh, il faut qu'elle se retrouve. Battista avait fini par s'approcher. Je me retournai à l'improviste et je lus le péché sur son visage. Le cœur me faillit. Et tout honteux, il balbutia: Elle est sûrement ici, il faut qu'elle se retrouve. Et il prit la bougie, se pencha pour chercher autour du lit, s'agenouilla en trébuchant, souleva les couvertures, regarda sous le lit. Il se tourmentait, il haletait, et la bougie dégouttait sur sa main mal assurée. Cette comédie m'exaspéra. Je lui criai rudement: Allez, assez, levez-vous, ne vous donnez pas tant de peine. Je sais bien, moi, où il faudrait chercher. Il posa la bougie sur le parquet, resta un moment à genoux, tout courbé, craintif, comme quelqu'un qui est sur le point de confesser une faute. Mais il ne confessa rien. Il se releva péniblement, sans mot dire. Pour la seconde fois, je lus le péché sur son visage. Et j'eus un accès de dépit. Certainement, pensai-je, il a la montre dans sa poche. Il faut que je le contraigne à avouer, à rendre l'objet volé, à se repentir. Il faut que je le voie pleurer de repentir. Mais le courage me manqua. Je dis: Partons. Nous sortîmes. Le coupable descendait l'escalier derrière moi, lentement, lentement. Appuyé à la rampe. Quelle pitié, quelle tristesse! Lorsque nous fûmes dans la rue, il me demanda d'une voix qui n'était qu'un souffle: Ah, si, tu crois que c'est moi qui l'ai prise? Non, non, répliquai-je, n'en parlons plus. J'ajoutai un instant après: Cela m'ennuie parce que c'était un souvenir de mon père mort. Je remarquai qu'il réprima un petit mouvement, comme s'il avait eu l'intention de tirer quelque chose de sa poche. Mais il n'en fit rien. Nous poursuivîmes notre chemin. Un peu plus tard, il me dit presque brusquement: Veux-tu me fouiller? Non, non, n'en parlons plus. Bon, adieu, je vous laisse, j'ai affaire ce soir. Et je lui tournai le dos sans le regarder. Quelle tristesse! Les jours suivants, je ne le revis point. Mais le soir du cinquième jour, il se présenta dans ma chambre. Je fis d'un air sérieux: Oh, c'est vous! Et je me remis à mes écritures sans un mot de plus. Après un silence, il osa me demander: L'as-tu retrouvé? Je feignis de rire et je continuai mes écritures. Après un autre long silence, il dit encore: Mais c'est pas moi qui l'ai prise. Oui, c'est bien, je le sais. Vous y pensez donc toujours. Lorsqu'il vit que je restais assis à ma table, il me dit après un troisième silence: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je le laissai partir comme cela, sans le retenir. Ensuite, j'en eus regret. Je voulus le rappeler, mais trop tard, il était déjà loin. Pendant 3 ou 4 jours encore, il demeura invisible. Puis un soir, au moment de rentrer à la maison, un peu avant minuit, je le rencontrai sous un bec de gaz. Il pluvinait. Commencez-vous à cette heure? Il ne tenait pas debout, je le crus ivre. Mais en l'examinant mieux, je m'aperçus qu'il était dans un état pitoyable, couvert de boue comme s'il se fût roulé dans une ornière, amaigri, défait, avec une figure presque violette. Mais que vous est-il arrivé, dites? Il éclata en pleurs et se rapprocha comme pour me tomber dans les bras. Et, de tout près, en sanglotant, il essayait de me conter la chose, suffoqué par les sanglots, par les larmes qui lui coulaient dans la bouche. Ah, oh, monsieur, sous ce bec de gaz, sous cette pluie, quelle terrible chose que les sanglots de cet homme qui n'avait pas mangé depuis 3 jours. Connaissez-vous la faim? Avez-vous jamais regardé un homme à moitié mort de faim qui s'assoit à une table, qui porte à sa bouche un morceau de pain, un morceau de viande, et qui mâche la première bouchée avec ses pauvres dents affaiblies et branlantes dans les gencives? N'avez-vous jamais regardé? Et votre cœur ne s'est-il pas fendu de tristesse et de tendresse? C'est vrai, je ne voulais pas vous entretenir si longtemps de ce pauvre diable. Je me suis laissé entraîner. J'ai oublié tout le reste, je ne sais pourquoi. Mais en vérité, ce pauvre diable a été mon unique ami et j'ai été son unique ami au cours de notre existence. Je l'ai vu pleurer et il m'a vu pleurer plus d'une fois. Dans son vice, j'ai contemplé le reflet du mien. Nous avons aussi partagé des douleurs. Nous avons souffert la même injure, nous avons porté la même honte. Il n'était pas le père de Ginevra, non, dans les veines de la créature qui m'a fait tant de mal. Ce n'était pas son sang qui coulait. Que de fois j'ai pensé, avec une curiosité inquiète et insatiable, au véritable père, à l'inconnu, à l'anonyme. Qui pouvait-il être? Non pas assurément un homme du peuple. Certaines finesses physiques, certaines allures d'une élégance native, certaines cruautés, certaines perfidies trop compliquées. Et puis l'instinct du luxe, le dégoût facile, une façon très particulière de blesser, de déchirer en riant. Toutes ces choses et d'autres encore révélaient quelques gouttes de sang aristocratique. Quel était donc le père? Peut-être un vieillard obscène comme le marquis Agouti. Peut-être un ecclésiastique, un de ces cardinaux galants qui semaient des enfants dans toutes les maisons de Rome. Que de fois j'y ai pensé. Et parfois aussi mon imagination m'a représenté une figure d'homme non pas vague et changeante, mais bien déterminée, avec une physionomie spéciale, avec une expression spéciale, et qui semblait vivre d'une vie extraordinairement intense. Sans nul doute, Ginevra devait savoir, ou du moins sentir, qu'elle n'avait aucune communauté de sang avec le mari de sa mère. Le fait est que je n'ai jamais réussi à surprendre dans ses yeux, quand il se tournait vers cet infortuné, un éclair d'affection, ou du moins de compassion. Au contraire, c'était l'indifférence, c'était souvent la répugnance, le mépris, l'aversion. C'était même la haine qui se montrait dans ses yeux lorsqu'il se tournait vers cet infortuné. Oh, ses yeux! Il disait tout. Il disait trop de choses en un moment, trop de choses différentes. Et je m'y perdais. Il leur arrivait de rencontrer les miens par hasard. Ils avaient un reflet d'acier luisant et impénétrable. Et puis, soudain, ils se couvraient comme d'un voile pâle. Ils perdaient leur dureté. Figurez-vous, monsieur, une lame ternie par une haleine. Mais non, il m'est impossible de vous parler de mon amour. Jamais personne ne saura combien je l'ai aimée, personne. Elle-même ne l'a jamais su. Elle ne le sait pas. Mais ce que je sais bien, moi, c'est qu'elle ne m'a jamais aimé. Pas un seul jour, pas une seule heure, pas même un seul instant. Je le savais dès le début. Je le savais alors même qu'elle me regardait de ses yeux voilés. Oh, je ne me faisais pas d'illusions. Jamais mes lèvres n'ont prononcé la question tendre, la question que répètent tous les amants. M'aimes-tu? Et je me souviens que quand j'étais à côté d'elle, quand je sentais en moi l'invasion du désir, j'ai pensé plus d'une fois, oh, si je pouvais lui baiser le visage et qu'elle ne s'aperçût point de mon baiser. Non, non, je ne puis pas vous parler de mon amour. Je vais vous raconter encore des faits, de petits faits ridicules, de petites misères, de petites hontes.